Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série qui est intitulée « Croire comme le Saint-Livre nous dit de croire ». Et nous arrivons à l'étude numéro 4. Nous pourrons donner comme titre « Le repos dans la grâce ». En effet, il est dit dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, et cela avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et l'exécution, ce selon son bon plaisir. » Philippiens 2, versets 12 et 13. Au début, quand je lisais cette parole, il y a fort longtemps, bien entendu, étant donné mon très grand âge, eh bien, je me demandais ce que je devais entreprendre. Et je prenais toutes sortes de résolutions. Cela dura plusieurs années, mais par la grâce de Dieu, je fus secouru. Pendant cette période de transition, où je me plongeais toujours plus profondément dans le fleuve de la grâce, je fus enfin pénétré des versets que je viens de vous dire. Et ainsi, je fus amené à reconnaître que nos œuvres propres à nous sont des plantes que Dieu doit finalement arracher. Toute plante que mon Père Céleste n'a point plantée sera déracinée, selon saint Matthieu, chapitre 15, verset 13. Et je commençais alors à saisir le sens de cette parole qui dit « Tu te fatigues par la longueur du chemin, tu ne dis pas « c'est en vain ». Mais tu trouves encore en ta main de la vigueur, et c'est pourquoi tu ne t'abats point. » Ésaïe 57, verset 10. Donc, aussi longtemps que l'on confond sa propre activité avec la vie divine, eh bien, on ne l'abandonne pas. Mais quand un enfant de Dieu s'appauvrit intérieurement, il s'aperçoit qu'il ne sert à rien, absolument à rien, de prendre des résolutions, des élans, de se lancer dans de bonnes œuvres. Mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, efforcez-vous d'être en repos. S'efforcer ici consiste précisément à rester tranquille, à ne pas prendre de résolution et à ne vouloir s'élancer en avant par ses propres moyens. Marthe se donnait beaucoup de peine pour servir le Sauveur, oh oui. Par contre, Marie, elle s'était assise au pied de Jésus et écoutait ses paroles. Elle avait choisi la bonne part et elle était certaine de son salut jusqu'à la fin. La même promesse nous est donnée si nous sommes dans l'attitude de Marie et non dans celle de Marthe. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas enlevée. Au début d'une vie consacrée à Dieu, nos actions propres se mêlent souvent à l'œuvre de Dieu et on a le sentiment d'être arrivé et de pouvoir quelque chose. Cependant, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la sainte parole de Dieu demeure éternellement. Voyez-vous, cette belle fleur, eh bien ce sont nos œuvres propres. Et quand Dieu la détruit, il nous semble que nous tombons dans la mort spirituelle. Or Dieu veut que nous nous attachions uniquement à sa sainte parole et que nous la gardions surtout. Il nous purifie des œuvres mortes. Il nous apprend à nous confier tranquillement en lui lorsque nous ne pouvons plus rien faire nous-mêmes et que pourtant nous avons des tâches à remplir. Quand on sait que toutes nos résolutions ne valent rien et que l'on reste en attente devant la sainte parole de Dieu, or, en se confiant en Dieu, eh bien, on travaille ainsi à son salut, et cela avec crainte et tremblement. Lorsque j'étais à cette école, et qu'il me semblait que tout devait être autrement, eh bien, je me hasardais à compter avec cette parole qui dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et l'exécution ». Mais encore ici, je pensais que ce vouloir et ce faire allaient se produire en moi comme je me l'étais représenté, et cependant, ce ne fut nullement le cas. Il me semblait plutôt que le Père Céleste m'abandonnait au bord du chemin, et cela me fit peur, et j'ai eu beaucoup à lutter pour me tenir tranquille. Dans mes pensées, j'estimais que je devrais être un homme pouvant faire de grandes choses, guérissant des malades, chassant des démons. Mais j'ai, pour finir, j'ai pu voir qu'il est écrit que il produit en nous selon son bon plaisir, et non selon mon bon plaisir. C'est pas pareil. Pour un peu de temps, je fus donc tranquillisé. J'avais l'impression que Dieu agissait et qu'il voulait apparemment me libérer de ma propre activité. Cependant, l'inquiétude me reprit. Les progrès étaient trop lents, et je m'efforçais de faire ceci et encore cela, bien que persuadé que je ne pouvais absolument plus rien faire de bon. Alors ma détresse étant revenue, je me consolais avec ce verset qui dit « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Et il ne brisera point le roseau froissé et il n'éteindra pas le luminon qui fume encore. À premier abord, tout cela peut vous sembler étrange et incompréhensible. C'est pour cela. Il nous faut, un, continuer d'étudier les Saintes Écritures et demander que l'Esprit-Saint nous illumine, nous éclaire, nous révèle les mystères de la Sainte Bible. Il est écrit qu'il annoncera la justice selon la vérité. Ésaïe, chapitre 42, verset 3. Alors je me croyais être comme le luminon qui fume encore. Voyez, si nous étudions pas un minimum la Sainte Parole, nous n'arriverons pas à cette conclusion, à cet éclaircissement. Je répète, Il annoncera la justice selon la vérité, Ésaïe 42, verset 3, cela nous tombe pas tout cuit dans la bouche. Vous avez compris. Alors, je me croyais être comme le lumineux qui fume encore. Et combien cette parole me réjouit. Il, lui, Dieu, le fera. En effet, c'est Dieu qui parle ainsi, et je crois en sa sainte parole. Il produit, lui, le vouloir et le faire. Il me semblait parfois, autrefois, que je ne pouvais plus rien vouloir. Mais c'est Dieu qui produit, et non pas moi. Je crus aussi ceci. Ils m'annonceront, ou il m'annoncera, la justice selon la vérité, ce qui m'apaisa de nouveau passablement. Et enfin, la lumière se fit en moi lors d'une étude biblique en lisant ce verset où il est dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice et cela à cause de son seul nom. » Là, j'ai pu voir très clairement que Dieu m'a conduit, et j'ai combattu le bon combat, et j'ai gardé la foi. Alléluia. Quelle fut grande ma félicité. J'étais véritablement entré dans le repos, et je réalisais que Dieu avait créé quelque chose de merveilleux en moi, mais non pas selon mes propres conceptions. Je n'ai jamais songé à une telle félicité et quel repos. Oui, un repos, cela signifie la quiétude parfaite. Ça signifie se reposer, c'est être à l'abri de toute inquiétude. Le repos, c'est ne plus douter. Le repos, c'est l'abondance de tout découragement. C'est-à-dire l'absence. Il ne faut plus avoir en nous ce phénomène d'être toujours découragé, abattu. Il faut être délivré de cela. Et le repos, c'est la fin également de tout murmure. Pourquoi continuer toujours de murmurer, de se plaindre, d'être grincheux. Autrefois, on me faisait le reproche d'être trop zélé et que seules les eaux paisibles étaient profondes. Alors je me défendais en rétorquant qu'il n'existerait pas d'eau paisible s'il n'y avait pas de torrent impétueux. Voyez-vous, au fond, c'est bien exact. Au début, quand un homme ou une femme se convertit, il ou elle entreprend toutes sortes de choses. Qui aurait la prétention de lui dire « Ce n'est pas bien cela. Reste tranquille. Reste dans ton fauteuil. Lis un bon roman ou regarde un bon film. » Qui dira « Ce n'est pas bien ?» que l'eau se précipite ainsi dans la plaine. Peu à peu, elle coulera plus doucement, et par-ci par-là, il y aura encore une cascade, puis elle redeviendra calme. Et c'est bien ainsi que les choses se passent au spirituel. On voit ce qu'il faut faire, on rend témoignage de Jésus et on veut convertir tout le monde. On agit avec beaucoup d'ardeur. On a du feu. Et c'est pourtant encore du feu étranger. Pour se rendre finalement à l'évidence que malgré nos grands efforts, nous n'arrivons pas au but désiré. Mais Dieu, perfectionne cette bonne œuvre commencée. Oui, il la poursuit toujours plus profondément, et l'on constate que Dieu produit le vouloir et l'exécution, et l'on demeure dans une quiétude absolument parfaite. Un jour, un pasteur eut un songe. Eh oui, ça peut arriver à tout un chacun. Alors il avait pris la voiture, allant d'un village à un autre village. Et là, il a vu tout à coup deux hommes vêtus de noir qui avaient tendu un fil de fer au travers de la route. Il se trouvait assis sur le siège arrière, tandis qu'un chauffeur conduisait la voiture. Il se pencha instinctivement pour actionner le frein, mais il ne le trouva point. Et l'auto pouvait quand même, curieusement, franchir l'obstacle. Alors il se retourna et il entendit ces hommes, deux hommes sinistres, dire « Oh là là, ces gens-là, ils font tous ainsi. » Oui, en effet, voyez-vous, ceux qui se confient véritablement en Dieu restent tranquillement assis sur les promesses de Dieu, et cela même quand il leur semble que les obstacles sont infranchissables et que jamais ils n'en viendront à bout. Le Père Céleste leur fait, lui, il leur fait franchir l'obstacle. Le Seigneur Jésus, notre bon berger, auquel toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, il les conduit et il nous conduit au but. Que notre sort est tout de même enviable, ne croyez-vous pas? Aucun autre apôtre que l'apôtre Paul n'enseigne aussi clairement comment nous pouvons être libérés de nos propres œuvres. Beaucoup de personnes qui ont été sauvées par grâce n'apprennent pas à vivre de la grâce et ils travaillent pour la mériter. Ils s'appuient ainsi sur ce qu'ils font. Mais l'apôtre Paul rejette ses mérites comme étant de la boue, car ils, au pluriel, ils engendrent la mort spirituelle. On pourrait rétorquer qu'il faut pourtant travailler, évidemment. Et l'apôtre Paul a travaillé beaucoup plus que tous les autres apôtres, et cependant il dit, non pas moi, mais tout par la grâce de Dieu qui, lui, est avec moi. Chers amis, dans ces temps de détresse, et combien nous sommes dans les temps de détresse, j'ai souvent songé à quelques propos du pasteur Grunig qui disait « Quand un homme vient de réaliser la nouvelle naissance, il ressemble à quelqu'un qui est perché sur le haut d'un toit, désirant monter encore plus haut. Au lieu de s'élever, il commence tout à coup à glisser jusqu'à la gouttière où il reste suspendu dans le vide. Anxieux de se laisser choir, il ne lâcherait pas prise si on ne lui tapait pas sur les doigts. Voyez-vous, cette comparaison, elle me réjouit, mais je n'en ai pas compris le sens que beaucoup plus tard. Alors cette comparaison, elle me fut vraiment profitable. Je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un d'abandonner la lutte, bien au contraire, qu'il ou elle fasse tout ce qu'il peut. Et cela me fait penser à Saint Marc, chapitre 13, verset 12. Quand l'herbe a séché et qu'il n'y a plus à attendre l'épanouissement d'une fleur, ce passage a vraiment toute sa valeur. Car la sainte parole de l'Éternel, elle demeure toujours. Celui qui ne s'éloigne pas des promesses dans de tels temps d'épreuve et qui se glorifie de Jésus-Christ malgré tout, il ou elle va progresser, il ou elle va de lumière en lumière, de clarté en clarté. Et cet homme et cette femme a vraiment de l'huile dans sa lampe, car on donnera à celui qui a, pour qu'il ait en abondance, nous est-il dit dans Saint Marc, chapitre 13, verset 12. Chers amis, un jour que j'avais le moral un peu bas, j'avais déclaré être un pécheur, un maudit, disant même que j'étais péché moi-même, tout en sachant parfaitement que Dieu ne me considérait plus du tout ainsi. Et ce reproche retentissait en moi. Tu as renié Jésus. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Alors je m'humiliais et j'eus tout à coup une vision. J'ai vu Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts et nous avons été ressuscités avec lui. Voyez-vous? Et cette parole m'est venue à l'esprit. Il est dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans vos péchés. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Ainsi, nous ne sommes plus dans nos péchés. Ici, les ténèbres se dissipèrent. Alléluia. Et je crois maintenant que j'aurais été perdu si cette situation avait duré une minute plus, et je me rendis tout à coup compte que le diable avait déployé là une très grande puissance. Le sacrifice de Jésus enlève les péchés et nous affranchit de la puissance du péché. Jésus a détruit la puissance de la mort. Et tout ceci est conforme à l'Écriture sainte. Vous comprenez? C'est absolument conforme. Quand les nerfs d'une personne sont ruinés, eh bien son corps entier peut l'être également. Personne ne pourra s'excuser au dernier jour, car l'homme n'ira pas à la perdition à cause de ses péchés, mais parce qu'il n'aura pas cru au sacrifice de Christ qui dure éternellement. Écoutez cela encore une fois. Personne ne pourra s'excuser au dernier jour, car, écoutez bien la suite, car l'homme n'ira pas à la perdition uniquement à cause de ses péchés, mais surtout parce qu'il n'aura pas cru, au sacrifice de Christ qui dure éternellement. Dieu a mis tous nos péchés sur lui, et je crois comme c'est écrit tout simplement. Croyons aux saintes écritures telles qu'elles sont écrites. Croyons-y. J'ai dit bien souvent à des personnes qui cherchaient le salut, crois-le maintenant, aujourd'hui même, comme s'il mettait maintenant tes péchés sur Jésus. croit qu'il met Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Père, qu'il met aujourd'hui, maintenant, tous tes péchés sur son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a payé le prix pour toi. Combien on trouve enfin la paix et combien en ont trouvé cette paix de Dieu, ils l'ont trouvée ainsi. Voyez-vous, les enfants de Dieu qui sont dans la vérité sont souvent éprouvés. Oh là là, et comment? Vous pensez peut-être le contraire. Tandis que pour ceux qui sont absolument indifférents, vous comprendrez quand même que c'est juste ce que je vous dis. Tandis que pour ceux qui sont indifférents, qui s'en foutent pas mal, et le diable n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de se donner tellement de peine, puisqu'il les tient déjà sous sa domination. N'oubliez jamais cette phrase. Mais l'ennemi met tout en œuvre contre ceux, surtout contre ceux qui craignent Dieu. Et ces assauts ne se feront peut-être pas continuellement, mais du moins de façon intermittente. Et ça n'arrête parfois jamais. Chers amis, lorsque une personne vit dans l'angoisse, lorsqu'une personne a perdu courage, et combien on peut comprendre cela, surtout de nos jours, lorsque une personne désespère d'être délivrée de ses passions et de ses faiblesses, et que je constate qu'elle lutte et elle se bat sans obtenir la libération, alors je cherche simplement à la relever et à l'encourager à croire, à continuer de croire, même si elle ne voit pas toujours les résultats. Crois même ce que tu ne vois pas. Malgré tout, crois à la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Car celui et celle qui réalise la rédemption voit finalement la victoire. Si quelqu'un se convertit et prie ensuite en disant « Ô Seigneur, aide-moi à vaincre. Tu vois que je doute. Tu vois que la lumière se soit pas faite en moi. Elle n'est pas faite en moi. » Eh bien, cela ne veut pas dire que cette prière est totalement incorrecte. Mais celui ou celle qui a expérimenté la délivrance en vérité, elle ou il voit aussi la victoire complète finalement. Il est si encourageant de savoir que la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. La victoire, elle se trouve dans la sainte parole de Dieu, et c'est par la sainte parole qu'on la connaît. Ce n'est pas la foi qui nous aide beaucoup, mais c'est la sainte parole qui nous porte et qui nous secourt. Et la foi, par contre, elle nous lie simplement à la sainte parole. Il est écrit dans le psaume 118, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Il est donc clair que tout le monde ne peut pas dire cela. car il faut auparavant avoir réalisé le salut en Christ et savoir que nous pouvons témoigner que l'Éternel est bon et que sa miséricorde dure éternellement. Dans la vallée de la Sile, en Suisse, un homme s'était converti et avait reçu, disait-il, une joie infinie. Cependant, après une année, cette joie infinie avait passé, s'est évanouie. Eh bien, c'est bien ainsi que quelques-uns pensent de la bonté de Dieu, souvent le lendemain matin déjà, ils supposent qu'elle n'est plus pour eux, elle est pour leur voisin, mais elle n'est pas valable pour eux. Or, il est écrit au verset 14 que ceux qui craignent l'Éternel disent « Sa bonté dure éternellement ». Je crois que c'est le psaume 118. Que sa bonté dure pas seulement 48 heures ou 2 mois, mais qu'elle dure éternellement. Eh bien là, il faut faire un instant silence, pourquoi pas? Et il n'est pas défendu de nous arrêter un instant et nous poser la question suivante. Craignons-nous Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Ça n'a rien à faire avec avoir peur. Car sa bonté ne dure éternellement que pour ceux qui le craignent. Je répète, car sa bonté ne dure éternellement que pour ceux qui le craignent, qui le respectent, qui l'aiment. Ça n'a absolument rien à faire avec trembler de peur. Chers amis, autrefois, quand je lisais le psaume 103, verset 1, où il est dit que mon âme bénit l'Éternel, je pensais toujours que David était d'humeur très joyeuse en prononçant ces paroles-là, mais plus tard, j'ai pu comprendre qu'il avait tout de même combattu le bon combat de la foi. Il avait ordonné à son âme, bénis l'Éternel. Voilà une question. À qui faut-il donner des ordres? À qui? Lorsque quelqu'un est assidu au travail, nul n'est besoin de lui commander de travailler, évidemment. Des ordres de ce genre sont donnés à ceux uniquement qui ne travaillent pas. L'âme de David paraissait bien plus disposée à se plaindre et à se lamenter que à louer. Et c'est pourquoi il lui dit « Bénis l'Éternel ». Ceci est très important. Nous lisons que certains personnages qui sont mentionnés dans la Sainte Bible disaient quand ils étaient en détresse, ô Dieu, Yahvé, tu es saint. Et c'est pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans certaines circonstances, il y a un réconfort tout particulier à se souvenir des bienfaits que nous avons reçu de Dieu. Le peuple fait pour lui, voyez-vous, je veux dire le peuple d'Israël, c'est ça que je voulais dire, le peuple d'Israël a souvent oublié un peu trop facilement ce que Dieu avait fait pour lui, pour eux. Et ce danger-là, évidemment, existe aussi pour nous, pour toi et pour moi. Mais les gens oublieux peuvent bien entendu s'exercer à se remémorer, se rappeler tout simplement les bienfaits de Dieu. Autrefois, je me souvenais longtemps du prix payé pour une paire de chaussures. Oh là là, oui. Mais j'ai honte de vous avouer qu'au sortir de l'église, j'avais déjà oublié les textes sur lesquels il avait été prêché. Aujourd'hui, j'oublie un peu mieux le prix que j'ai payé pour mes chaussures et même le montant de la facture de mon tailleur. Mais, il est des choses que je n'oublie pas, c'est-à-dire la sainte parole de Dieu et la bonté de Dieu, notre Père Céleste, et surtout sa patience envers nous. Chers amis, nous devons apprendre à croire même sans voir. Oh, il y en a là qui ne vont pas être contents du tout. Ils vont dire, il est un peu gaga celui qui prêche maintenant. Il y a des personnes qui ne possèdent pas la paix de Dieu, mais qui se préoccupent de l'obtenir. Elles se représentent les sentiments qui devraient les animer et elles s'attendent à recevoir une ondée qui finalement ne vient pas. Alors, c'est comme moi aujourd'hui, je ne parle pas en langue. Ça ne veut pas dire que j'arrête de prier pour cela et que j'arrête de le désirer. Alors, il y en a qui se désespèrent et qui disent « Je ne peux donc pas croire puisque les choses ne se réalisent pas comme je veux. » À ces personnes, je leur dis « Ce n'est pas en toi-même qu'il faut chercher ce témoignage-là, mais tu dois croire au témoignage que Dieu a donné de son Fils qui, lui, s'est chargé de toute la dette de péché, de mes péchés, et qui a donné sa vie pour toi, pour moi. Si Dieu donne ce témoignage, pourquoi ne pas le croire? Hein? Pourquoi devrions-nous ne pas le croire? Ceci doit donc être plus précieux à tes yeux que tout ce que tu pourrais ressentir. Dès qu'une personne croit de cette façon-là, elle reçoit ce témoignage en elle-même par la foi en la sainte parole de la réconciliation, en l'acceptant tout simplement telle qu'elle est écrite. Écoute ceci, s'il te plaît. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Premier épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 5, verset 10. Le témoignage de Dieu, c'est la sainte parole de Dieu dans toute sa simplicité. Crois donc ce que dit ton Papa Céleste, exactement comme l'enfant croit son Papa Terrestre. Oh oui, vous pouvez rompre le pain spirituellement. Et comment? Et comment? Si nous rompons le pain spirituellement, nous disons aux âmes qui cherchent le salut, Jésus s'est offert comme caution dès avant la fondation du monde et nous étions dans nos péchés, surtout moi. Mais Jésus est venu et il s'est chargé de toute notre dette, y compris la mienne. Le Père Céleste en exigeait le paiement. Et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, il s'est offert librement comme victime expiatoire. Jésus a été fait péché pour toi. Et Dieu, le Père, a jeté toute la dette de péché sur la caution, c'est-à-dire sur le Sauveur. Et cela dès lors, tous tes péchés sont maintenant sur lui. Tu peux donc dire, j'ai pu décharger mon rucksack des épaules et j'ai pu le déverser sur mon Sauveur et Seigneur. La caution a acquitté parfaitement ce qui était dû, ayant porté ta condamnation à ta place, à ma place. Et elle te fait paraître maintenant irrépréhensible, incondamnable, et cela devant le Père. Crois cela, s'il te plaît, tout simplement. Un jour, on fit chercher le pasteur pour visiter un malade qui désirait être guéri. C'était un député. Il lui demanda s'il était un pécheur. Oui, dit le député. Nous sommes tous pécheurs, vous aussi. Alors le pasteur lui a répondu, mais moi je ne le suis plus. J'en étais un autrefois. Évidemment, le député était très surpris. Mais, heureusement pour lui, comme il désirait être guéri, il s'est contenu de polémiquer. Il se garda bien de le contredire. Et le pasteur eut un entretien avec lui et il confessa tous ses péchés, se déclarant absolument disposé à abandonner un procès qu'il avait même déjà commencé en prenant deux avocats contre un voisin. Et pour lui faire comprendre comment le Père Céleste avait jeté tous ses péchés sur Jésus-Christ, le pasteur prit un tabouret et le lança par la fenêtre, qui était ouverte, évidemment, heureusement. Que restait-il ici, dans cette chambre, maintenant de ce tabouret? Évidemment, le député a dû répondre absolument plus rien, puisqu'il est, vous l'avez lancé par la fenêtre. Et si tes péchés sont jetés sur Jésus-Christ, combien de temps reste-t-il encore maintenant? Ah, Eureka, la lumière s'est faite en lui. Point de réponse pour l'instant. Et pour terminer, le pasteur lut les paroles de l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 16 et 17, où il est dit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Or il pria avec instance pour qu'il ne plût pas. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors, En écoutant ces versets, cet homme qui écoutait attentivement reçut finalement la paix de Dieu et il a pu constater qu'il existe des hommes qui ont pu devenir justes par la foi et il crut. De hauts personnages lui ont rendu visite par la suite et il leur a parlé de Jésus-Christ. Et ces hauts personnages se sont souvent éloignés, toutes en larmes. Ce n'est pas une fiction, cela. Pour des gens d'aujourd'hui qui ne peuvent plus croire en quoi que ce soit, parfois même en eux-mêmes, eh bien, ça peut paraître absolument débile. Oui, c'est terrible aujourd'hui. Il y en aura toujours moins qui peuvent croire. Et pour terminer, il y en aura vraiment tellement peu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Mais revenons à notre député. Il a vécu encore 3 ans et il fut un témoin vivant et merveilleux de la grâce de Dieu. Bien sûr qu'il y a des obstacles à l'expérience du salut. Une jeune fille qui était accablée, qui était pleine de tristesse, est venue trouver le pasteur un jour et elle lui a demandé de prier avec elle. Elle lui confessa ses péchés et elle dit entre autres qu'elle était liée par une chaîne. Malgré son désir d'être libérée et malgré sa foi, elle retombait toujours et encore toujours dans certains vices. Alors, le pasteur lui dit, « Crois donc pour le présenter, pour te représenter, que Jésus a tout simplement porté des péchés sur la croix. Essaye de croire cela. Crois-le. Et cela, pas dans 2 ans, mais maintenant. » Et tout à coup, cette jeune fille, oui, elle a pu constater que ses péchés étaient pardonnés et elle a pu réaliser la victoire. Et elle est devenue, écoutez bien, elle est devenue un instrument béni dans la main de Dieu. Car par son moyen, plusieurs âmes expérimentèrent la paix de Dieu. Étant dans un home, dont le directeur, lui-même un pasteur, mais ce pasteur-là ne tolérait pas que les enfants se convertissent. C'est très curieux, mais il semble que ça a existé, peut-être encore aujourd'hui. Alors, un enfant a dû quitter la maison, de même qu'une institutrice qui, elle, enseignait là et qui avait reçu la paix de Dieu par son moyen. Oui, voyez-vous, quand le feu se déclare quelque part, on alarme les pompiers et l'on cherche à éloigner les incendiaires. C'est évidemment quelque chose pour expliquer ce qui est arrivé. Chers amis, un directeur allemand, puisque moi-même je suis de langue allemande, qui savait fort bien prêcher. Mais cet homme ne parlait que d'affliction, de souffrance et de ténèbres, ce qui existe évidemment. Il n'admettait pas comme réalité les paroles de ce petit chant qui dit « toujours joyeux, le soleil brille tous les jours ». Il connaissait beaucoup de passages, surtout de l'ancienne Alliance, qui parle évidemment de ténèbres. Et un frère lui opposait le chapitre 58 d'Ésaïe, où il est dit « Ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres, elles seront comme le midi. » En effet, la lumière de midi est pourtant assez claire. Il lui était donc encore possible d'écouter la suite. Alors ce frère lui lut encore quelque chose tel que « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Or, Jésus-Christ, c'est lui qui nous apporte la lumière. Oui, c'est lui qui nous apporte toute la lumière. Et celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, est-il dit, mais il aura la lumière de la vie. Et vous êtes, vous qui écoutez, la lumière du monde, vous êtes donc le sel de la terre. Et ce directeur, revenons à lui, heureusement reconnut toute la vérité, et il était maintenant aussi dans la lumière. Et nous, nous sommes tous réjouis ensemble qu'il y en a qui sont d'accord de recevoir la lumière divine en eux. Vous pouvez écouter, vous pouvez demander d'écouter une série que j'ai faite sur les enfants de la lumière. Il y a même des pasteurs qui utilisent ce que j'ai reçu dans le cœur de communiquer, de dire, de transmettre. Ils utilisent cela vraiment avec beaucoup de choses qui se passent positivement, de miracles qui s'accomplissent d'une façon spirituelle. Il est du reste des écrits déjà dans l'ancienne alliance que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et dans la nouvelle alliance, bien entendu, il est dit que Jésus, que lui est la lumière et il est également la vie. Autrefois, j'étais moi aussi dans les ténèbres et comment ? Du reste, je dois tout au Seigneur Jésus. Je lui dois une très grande facture. Oh, ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je crois à ces mérites-là. Non, 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 non. C'est par amour pour le Seigneur qui m'a sauvé et par amour pour que des âmes puissent être eux-mêmes changées de perdus qu'ils sont pour devenir sauvés pour l'éternité. C'est quelque chose de merveilleux. Et autrefois, je me consolais un peu de la façon suivante. Je m'étais converti, j'ai restitué tout ce que j'avais dérobé, je n'avais donc rien à déclarer au fisc, et beaucoup de personnes cachent leur fortune en trompant le fisc. Et je vis maintenant pour Dieu, aussi bien que je le peux. J'ai compris que ça doit totalement changer. Puis, je me souviens de cette parole qui disait que nous devons paraître un jour devant Dieu sans tache. Sans tache et même irrépréhensible. Oh là là, je savais que je n'étais pas irrépréhensible du tout et que je ne pouvais pas subsister devant Dieu. Je voyais alors ma lampe s'éteindre. Voyez-vous, nombreux sont ceux qui prétendent que nous manquons tous les jours, nous commettons tous les jours des nombreux péchés parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut toujours pécher. Eh bien, si telle est la pensée, éprouve-toi donc. Peux-tu comparaître ainsi devant Dieu? Ma lampe s'est éteinte au fur et à mesure que je pensais un peu comme ça. Et lorsque j'arrivais à cette parole, irrépréhensible, soyez irrépréhensible dans la paix. Et là, je me rendais tout à coup compte que je n'étais pas tellement pur. Les vierges sages, pour revenir à eux, elles préparaient leurs lampes en demeurant très calmes, en louant la rédemption et en rendant grâce à Jésus parce qu'il les avait fait paraître irrépréhensibles devant le Père Céleste. L'Esprit de Dieu leur a confirmé ce qu'elles possédaient en Jésus-Christ. Car ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ, ils ne lui appartiennent pas. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, absolument personne, ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit Saint de Dieu. Si nous ne possédons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons connaître ce que nous avons en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler Jésus-Christ et doit nous révéler son œuvre de rédemption. Nous savons alors que nous sommes finalement acceptés et qu'il nous a fait paraître irrépréhensibles devant le Père. Ainsi, notre lampe ne s'éteint pas, bien au contraire. Elle brûle d'une clarté toujours plus vive. Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe, selon la version Darby, Ésaïe, chapitre 35, verset 10. Chers amis, le pasteur, oui, avait dit un jour que la repentance véritable, qu'elle consiste toujours à donner raison à la sainte parole de Dieu. Et dans une réunion, ce pasteur qui s'appelait, il est maintenant vers le Seigneur, qui s'appelait Fritz Berger, un nom suisse-allemand. Fritz a médité sur la parabole des noces et a parlé de celui qui était entré dans la salle du festin sans avoir revêtu l'habit de noces. Et le roi avait ordonné, « Prenez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Lorsque la réunion fut terminée, une jeune fille s'approcha pour lui dire qu'elle voulait se convertir. Alors Fritz lui demanda si elle avait aussi des péchés et elle ne pouvait pas le dire. Pendant la réunion, il avait dit « Qui de vous peut raconter comment il a réalisé la nouvelle naissance ?»« Le roi n'a-t-il pas demandé ?»« Mon ami, comment es-tu entré dans la salle sans être revêtu de l'habit de noces ?» Mais il eut la bouche fermée. « Oui, celui qui ne peut pas raconter comment il a passé par la nouvelle naissance » aura la bouche fermée. » Et la jeune fille avait été très attentive et elle a pu se voir pour finir vraiment perdue, car elle comprit qu'elle ne pouvait pas du tout raconter sa nouvelle naissance. Alors le pasteur Fritz lui lut Romains chapitre 3, les versets 10 à 18, qui décrivent le triste état de l'homme naturel. Il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ne connaissent point le chemin de la paix. Ensuite, il demanda, « Jeune fille, te reconnais-tu dans cette description ?» Et elle répondit, « Je ne le vois pas ainsi, mais j'accepte cela si Dieu le dit. » Elle faisait partie d'une famille où les enfants avaient beaucoup d'amour les uns pour les autres. Alors Fritz continua sa lecture, lui montrant la manière dont on peut être justifié sans mérite aucun, et cela par grâce. Ensuite, il lui posa la question, « Crois-tu cela ?»« Oui. » »« Je ne le comprends pas tout à fait, mais je le crois et je l'accepte, tel que vous le dites. » Car elle se voyait maintenant comme étant la créature la plus mauvaise. Et dès ce moment-là, elle crut la sainte parole de Dieu et elle fut convaincue de tous ses péchés. Le pasteur Fritz lui répondit et lui posa 5 questions. Voici la première. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Cela est-il aussi valable pour toi? Deuxièmement, il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son sang précieux. Es-tu parmi ceux-là? Troisièmement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. As-tu aussi compris qu'il a ôté tes péchés? Quatrièmement, c'est lui qui a fait la purification de nos péchés par son sang précieux. Cela est-il aussi valable pour tes péchés? Et cinquièmement, toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Et ce, également valable pour toi. Il l'invitait à lui renvoyer ce questionnaire avec les réponses. Et c'est une lettre pleine de joie qui lui apporta la nouvelle qu'elle avait lue jusqu'à la cinquième question. Et là, Eureka, la lumière s'était faite subitement en elle, et elle comprit, oui, que son péché était effacé et que Jésus avait porté sa condamnation, et elle reçut la paix dans son cœur. Une de ses amies avait également lu cette lettre et trouva elle aussi la paix. Oui, les ténèbres se dissipent quand on vient à Jésus. Il nous montre qui nous sommes, mais aussi qui il est lui. Avant de terminer cette étude, une question délicate. Comment le salut peut-il nous être ravi? Un frère avait l'intention d'épouser une jeune fille, mais bien qu'elle fût très pieuse, religieuse, il n'était pas certain qu'elle fût régénérée. Avant les fiançailles, il l'engagea à passer quelques jours de vacances chez ce pasteur Fritz, et à cette occasion, il réalisa la paix de Dieu. Et elle s'en retourna chez elle, confessant qu'elle avait été lavée de tous ses péchés. Le prédicateur de l'église qu'elle fréquentait d'habitude depuis longtemps lui rendit visite et lui exposa que tout cela était au fait une grande erreur, prétendant que l'on ne pouvait pas être libéré du péché et que le pasteur Fritz Berger méprisait au fond le sang de Jésus. La jeune fille fut dépouillée de ce qu'elle avait reçu et elle a écrit à ce pasteur Fritz Berger ce qui en était. Le pasteur put réfuter chaque phrase avec la sainte parole de Dieu et il fit publier cette lettre dans le journal Friedensbotschaft. Et de nombreuses personnes ont réalisé encore le salut par ce moyen-là. On n'a pas besoin du sang de Christ pour demeurer dans ses péchés, évidemment. Mais il est indispensable pour être finalement libéré du péché et pour en être préservé. Celui qui demeure dans le péché outrage l'Esprit Saint de la grâce. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché puisque nous sommes morts au péché? Et c'est ainsi que s'est écrié l'apôtre Paul. Il est écrit dans le vieux livre « Honore ton père et ta mère ». Combien de pères et de mères sont morts prématurément à cause des douleurs et des souffrances causées par les désobéissances de leurs enfants? Il y a une émission à la télévision, je crois que ça s'appelle, je suis plus très sûr, mais c'est une émission qui paraît presque toutes les semaines, une fois, où il y a, on voit des enfants de famille qui sont tellement rebelles est tellement impossible à vivre qu'ils en arrivent même à battre leur propre mère, parfois même avec beaucoup de violence. Voyez-vous ? Mais Dieu fait miséricorde à tous ceux qui se repentent véritablement. À B, une jeune fille pleurait en avouant qu'elle avait désobéi à sa mère. Maintenant, il n'y a plus de grâce pour moi, dit-elle. Je ne peux plus demander pardon à ma mère, car elle est morte, tellement qu'elle l'a maltraitée. Oui, ma mère est partie. Elle est morte. Et elle se trouvait épouvantablement triste, effondrée et désespérée parce qu'elle a pu constater qu'elle avait vraiment très mal agi, d'une façon même indigne, d'une fille qui devrait plutôt aimer sa mère. Mais le pasteur eut beaucoup de peine à convaincre cette jeune fille de se confier dans la grâce. Un jour, elle s'était humiliée à cause de toutes ses désobéissances et toutes les maltraitances qu'elle a fait subir à sa maman. Et si une personne se repent, est-il dit, la grâce de Dieu le Père est là. Et quel que soit votre passé, même si vous avez été une jeune fille comme à la Reeperbahn de Hambourg, qui a vendu son corps pour de l'argent, un jour, une diaconesse des sœurs de l'Évangile, les sœurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce sont les sœurs chrétiennes de Darmstadt. C'est une ville en Allemagne. Et cette sœur s'était dévouée à essayer d'atteindre ceux qui sont dans la fosse, tels que les filles légères et tels que ceux qui par misère se saoulent jusqu'à ce qu'ils sont morts et ceux qui se droguent parfois aussi jusqu'à la mort. Et là, une de ces très belles jeunes filles, une beauté, une star, on peut dire, tellement qu'elle était belle, elle a compris qu'elle était perdue. Elle a menti à son père et à sa mère en disant qu'elle avait trouvé un travail en Allemagne. Mais quel travail ? Ça, elle ne l'a pas dit. Elle a été totalement sauvée, et aujourd'hui, eh bien, elle a construit une communauté de tous ceux qui sont ce qu'on appelle laissés pour compte. Et elle a eu de très nombreuses conversions. C'est magnifique cela. C'est magnifique. Vraiment, il peut nous en venir les larmes de bonheur. Alors, chers frères et sœurs, continuons de prier, voire même d'intercéder pour ceux qui sont absolument perdus, mais que le Seigneur voudrait pourtant, par amour, par compassion, sauver. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série, croire comme le Saint Livre nous le démontre. À demain matin, que Dieu vous bénisse. Au revoir.